Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine consacré à l'actualité de la lutte pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et on est en présence de Saïd Bouamama, sociologue et auteur du livre « L'affaire Georges Ibrahim Abdallah » édité aux éditions Premier Matin de novembre. Et c'est aussi pour ça qu'on est en présence d'Asia. Salut à toi, salut à vous.
Je ne vais pas intervenir en tant qu'auditrice, je vais juste rajouter des questions à cette interview.
Et salut à toi, Tom, tu fais partie du collectif Palestine Vaincra.
C'est ça, bonjour.
Et tu fais peut-être aussi partie du collectif Vakarm qui a réalisé le film Fedaïn, le combat de Georges Ibrahim Abdallah.
Oui, aussi.
Voilà, donc du coup, en ce moment, il y a un peu cette actualité hein, de ce film et de ce livre. Donc du coup, on va prendre une petite heure pour en parler tous ensemble. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter vous votre lutte et en quoi celle de Georges Ibrahim Abdallah, comment elle est arrivée dans votre vie et comment elle vous a parlé en fait?
Alors je m'appelle Saïd Bouamama, j'ai l'habitude de me présenter comme étant un enfant d'ouvrier immigré. Chacun de ces mots étant important pour moi, enfant d'ouvrier, ça explique dans ma trajectoire pourquoi les questions de lutte des classes, d'oppression de classe ont été importantes, et pourquoi je me suis retrouvé après engagé dans un certain nombre de combats syndicaux, dans un certain nombre de combats liés aux travailleurs. Enfant d'ouvrier, mais aussi immigré, ça va expliquer aussi pourquoi... dans ma trajectoire ensuite, je me suis penché sur des questions liées à cette oppression spécifique qui est liée à l'origine de la personne. Et donc je me suis retrouvé engagé dans un certain nombre de luttes et de combats liées à cette oppression particulière qui est liée à l'origine des personnes. Et donc je suis quelqu'un qui a d'abord commencé par être un révolté dans le quartier populaire où je grandissais à Roubaix et qui a rencontré des militants dans ce quartier, et c'est ça qui m'a amené à la sociologie. Alors, c'est pour ça que je fais cette introduction. C'est le militantisme qui m'a amené à la sociologie, et pas la sociologie qui m'a amené au militantisme. Et cette trajectoire-là explique pourquoi mes centres d'intérêt ont été toutes les questions liées à l'inégalité et aux dominations, de sexe, de race ou de classe. Si on pose ces questions comme ça, inévitablement, on croise Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant qui, dans ses... engagements, dans ses prises de position, dans ses analyses, s'intéresse à la question du système de domination. Et dans ce système de domination, il y a à la fois l'oppression première qui l'a amené à se battre, qui était l'oppression contre l'oppression nationale, c'est autrement dit Israël qui envoie son armée au Liban, et au travers de cela, eh bien, continue, prolonge l'oppression que mène cet État contre le peuple palestinien. Mais dans cette analyse, il ne s'arrête pas à ça, il relie cela à toutes les autres questions, et donc je ne pouvais que croiser Georges Ibrahim Abdallah. Et en croisant Georges Ibrahim Abdallah en termes de réflexion, j'ai été assez étonné de l'inertie d'une grande partie du mouvement militant ici en France, alors qu'il est emprisonné en France, sur sa libération. Voilà la raison de mon engagement, et un peu de cette volonté de me questionner sur quelle contribution particulière je peux faire à la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et ça donnait, voilà l'histoire du livre. Que devant une inertie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a donné pour certains un film, moi ça a donné un livre, j'espère que ça donnera des chansons, que ça donnera, etc. Tout le monde est questionné sur sa contribution avec ce qu'il sait faire pour accélérer cette libération.
Et du coup, moi, je suis membre du collectif Palestine Vaincra. C'est un collectif de soutien à la résistance palestinienne pour la libération de sa terre de la mer au Jourdain. Par ailleurs, le collectif est membre d'un réseau international qui s'appelle le réseau Samidoun, qui est un réseau de soutien aux prisonnières et prisonniers palestiniens. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on soutient Georges Ibrahim Abdallah, parce que c'est un prisonnier de la révolution palestinienne en France. Et que nous, le soutien aux prisonniers palestiniens, c'est évidemment un soutien pour la justice, évidemment un soutien dans le cadre de la défense des droits humains, mais c'est d'abord un soutien politique à ceux et celles qui sont en première ligne de la résistance palestinienne. Et c'est aussi pourquoi Georges Ibrahim Abdallah, il est emprisonné en France depuis 37 ans. C'est parce qu'il est à l'avant-garde de cette résistance, à l'avant-garde de cette révolution, et que le soutenir pour nous, c'est soutenir le peuple palestinien et sa résistance.
Du coup, on peut revenir sur l'histoire de Georges Ibrahim Abdallah, son action pour la Palestine en France, pourquoi il a été arrêté, pourquoi ils l'ont fermé et surtout pourquoi il n'est pas libéré.
Alors, pour faire le lien entre les deux questions, l'articulation entre l'engagement de Georges Ibrahim Abdallah et la Palestine, c'est deux questions indissociables, mais qui dépassent Georges Ibrahim Abdallah, qui pose la question. Et ici, peut-être qu'en Europe et en France en particulier, on a du mal à saisir cela. La question de la place de la question palestinienne dans la socialisation militante de l'ensemble des pays arabes. Et c'est en train de gagner aujourd'hui une partie de l'Afrique, dans l'ensemble du mouvement des pays qui sont touchés par l'impérialisme en réalité. Les gens arrivent au moment où ils se posent des questions à l'adolescence et à l'âge adulte, des questions sur leur engagement, sur la vie sociale, sur leur positionnement politique. Quand on grandit au Liban, on rencontre inévitablement la question palestinienne. C'est-à-dire qu'on rencontre inévitablement la question de la place d'Israël dans la gestion de la région par les grandes puissances. Et ça, inévitablement, ça amène, que ce soit en Syrie, en Irak, au Liban, etc., toute cette jeunesse-là grandit avec la prise de conscience qu'il n'y a pas une question libanaise qui soit séparée de la question palestinienne, mais que tant qu'il y aura cette oppression-là, on aura un État qui est au service des grandes puissances et qui gère toute la région. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi toute la gauche et l'extrême gauche au Liban, en Syrie, en Irak, etc., sont inévitablement percutées par la question palestinienne. On ne peut pas imaginer que dans leur débat, ils puissent parler du Liban sans parler de la Palestine. Et ça va expliquer pourquoi, pour Georges, il n'y a pas un combat libanais et un combat palestinien qui se surajouterait. Il y a le même combat qui est la libération de la région de la prégnance impérialiste, et comme Israël est une clé dans cette prégnance impérialiste, inévitablement cela est posé.
Alors justement, en fait, dans ce livre, tu racontes cette histoire, cette affaire d'État, en commençant par parler de la socialisation politique de Georges Ibrahim Abdallah au Liban dans les années 70, où justement on voit qu'il y a plusieurs invasions militaires israéliennes au Liban, dans lesquelles justement, bah, comme tu viens de le dire, la résistance palestinienne, elle est centrale dans cette construction politique. Je trouvais ça intéressant justement de peut-être développer ce point-là, parce que on parle d'anti-impérialisme, on parle de la place d'Israël dans un système de domination coloniale dans la région. Est-ce que tu pourrais, et puis les autres peut-être vous pouvez aussi participer à cette définition, mais définir de quoi on parle quand on parle d'impérialisme, et en particulier en Palestine?
Au moment où, alors on va peut-être faire un petit recul historique pour que nos auditeurs puissent saisir l'ensemble des enjeux. En réalité, les débuts de la question palestinienne ou de la question israélienne, hein, moi j'aime pas le terme question israélo-palestinienne parce qu'il y a un oppresseur et un opprimé, donc je vais parler de la question palestinienne, elle commence à se poser au moment où l'Empire ottoman entre en crise. C'est-à-dire au moment où naissent des mouvements de libération nationale, au moment où il y a quelque chose qui est renvoyé à l'ère historique précédente, qui était une ère féodale, etc., qui entre en crise. Et à ce moment-là, c'est un moment où il y a, on est au début du siècle dernier, c'est-à-dire on est dans un moment où on a un partage du monde entre les grandes puissances. C'est le moment où, en termes de colonies, la France et la Grande-Bretagne se partagent l'Afrique, se partagent le reste du monde. On a un conflit entre ces grandes puissances pour savoir qui va dominer le monde. Et se pose la question de qui va dominer les dépouilles de l'Empire ottoman, qui va dominer cette région où auparavant il y avait l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, pour les Anglais, l'idée de créer un foyer, qu'ils appelaient à l'époque foyer juif, est un outil pour contrôler la région. Autrement dit, dès le début, il n'y a pas une question de juifs par rapport à des musulmans ou d'israéliens par rapport à des arabes ou de juifs par rapport à des arabes. Dès le début, il y a une question d'une grande puissance qui a besoin d'avoir un pied à terre pour gérer l'ensemble de la région, pour maîtriser l'ensemble de la région. Et donc, avant même la création de l'État d'Israël, le projet sioniste en tant que tel, l'idée même de créer un État juif dans la région, est un élément qui est lié à l'impérialisme international, c'est-à-dire à une grande puissance.
Après, et du coup, à des intérêts politiques et économiques
économiques, parce qu'on commence, on connaît dès cette époque-là les premières ressources pétro-gazières qu'on ne sait pas encore exploiter, qui vont prendre encore plus d'ampleur après, mais en tout cas, en termes de maîtrise géostratégique, celui qui contrôlera cette région a un poids dans les contradictions entre grandes puissances. Et donc, dès les débuts, avant même la création d'Israël, il y a un enjeu entre grandes puissances là-dessus. Il n'y a jamais eu autonomie de la question autonomie de croyants juifs sur la création d'un État. Il y a toujours eu une stratégie impérialiste. D'ailleurs, dès les débuts, on a cette idée que c'est contre les concurrents. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, on a des écrits sur « si nous soutenons le foyer juif, on va pouvoir prendre plus de place que les Français ». Il y a bien une concurrence entre grandes puissances. Ça va se renforcer, c'est ce que j'appelle dans mes écrits la centralité de la question palestinienne. Autrement dit, c'est pas une question comme les colonialismes classiques dans lesquels il y a un État qui domine un peuple. Là, on a un État extérieur qui s'appuie sur un prétexte pour justifier leur présence. Ça va se renforcer après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que le pétrole a pris une place particulière. La Seconde Guerre mondiale a montré que la maîtrise de cette source d'énergie est un facteur de puissance. Et donc, la région prend une place encore plus importante à ce moment-là. Et là, ce qui va se mettre en place, on est dans la période de la guerre froide, avec une opposition entre les USA et l'URSS, c'est que la création de l'État d'Israël n'est pas l'aboutissement simplement du projet sioniste, mais est le résultat d'un colonialisme collectif. Toutes les puissances impérialistes ont intérêt à la création de l'État d'Israël. Ça va faire la difficulté particulière du peuple palestinien, qui n'a pas à se battre seulement comme un impérialisme, comme en Algérie, le peuple algérien devait se battre contre un occupant précis, qui était la France, mais un cartel d'impérialisme. Et ça explique l'ensemble des soutiens à Israël. Et donc, à partir de ce moment-là, Israël prend une place particulière dans la gestion de la région. C'est-à-dire qu'il devient le gérant d'affaires de l'ensemble des puissances impérialistes. Et c'est toute la difficulté, toute l'honneur du peuple palestinien qui est qu'en se battant pour lui-même, il pose la question de tous les peuples de la région qui sont dominés à la fois par l'impérialisme extérieur, mais aussi par la bourgeoisie, l'impérialisme extérieur, mais aussi par le gérant d'affaires local qui est Israël. Et c'est pour cela que la question palestinienne a une place particulière dans les luttes anti-impérialistes, parce que imaginons un peuple palestinien libéré, ça ne libérera pas que le peuple palestinien, ça libérera l'ensemble de la région, ça posera la question de l'ensemble de la région. Et c'est pour cela que, si vous lisez les analyses de la gauche libanaise, ou de la gauche syrienne, ou de la gauche irakienne, vous verrez inévitablement l'articulation de leur propre question nationale avec la question palestinienne, parce qu'ils sont tous conscients que c'est des choses qui sont entièrement liées.
Et juste pour rajouter deux éléments, c'est que dans la politisation de Georges Ibrahim Abdallah et notamment la gauche arabe, il y a deux événements qui sont fondateurs. C'est d'abord en mars 68, la bataille de Karamé en Jordanie qui a lieu après la défaite arabe de 1967 face à l'armée israélienne et des régimes arabes. La résistance palestinienne se réorganise en Jordanie et la bataille de Karamé, donc en mars 68, est la première victoire politique et militaire de l'Organisation de libération de la Palestine, et elle provoque une onde de choc dans le monde arabe et aussi dans l'immigration arabe en Amérique du Nord et en Europe, et des milliers de militants arabes rejoignent l'OLP après ça, et c'est un événement qui est structurant dans la composition de l'Organisation de libération de la Palestine. Le deuxième événement, c'est Septembre Noir, en 1970, où, parce que la résistance palestinienne s'organisait sur les frontières jordaniennes face à la Palestine occupée pour faire ses opérations armées, le régime jordanien, qui est un régime réactionnaire fantoche à la solde des impérialistes, décide de les expulser de son territoire. en faisant des massacres, etc. Et en fait, à la fin, dans les années en 71, c'est l'OLP et des milliers de fédéines qui arrivent au Liban. Et du coup, ça, c'est un deuxième effet, c'est que dans la société libanaise, ça a un bouleversement politique. Et c'est en 71 que Georges Ibrahim Abdallah décide de rejoindre la composante de gauche radicale révolutionnaire de l'OLP, qui est le Front Populaire de Libération de la Palestine. Donc c'est Georges Abdallah, il est le fruit de cette séquence historique où, après la défaite arabe de 67, la bataille de Karamé en 68 et le Septembre Noir de 1970, en fait, la révolution palestinienne prend une place centrale dans la scène politique de la région, alors qu'avant, le peuple palestinien était vu comme un peuple de réfugiés. Il devient un peuple de combattants, un peuple de révolutionnaires, et c'est dans ce cadre-là que Georges Abdallah rejoint cette dynamique.
Et du coup, dans justement cette socialisation politique de Georges Ibrahim Abdallah au Liban, ce qui est intéressant et ce que tu précises dans le livre, c'est que du coup, il y a cette, on va dire, ce qu'on appelait cette guerre civile libanaise qui a opposé, on va dire, à des forces de gauche en soutien aux réfugiés et à la lutte des Palestiniens d'un côté, et les Kataeb, les phalanges chrétiennes qui... pour le coup, se faisait le porte-voix des forces coloniales impérialistes et le relais d'Israël au Liban. Mais ce dont tu parles et ce dont on parle moins dans cette histoire du Liban, c'est le contexte économique et social capitaliste du Liban à l'époque, qui fait qu'en fait aussi, il y a une condition matérielle, puisque voilà, Georges Ibrahim Abdallah, il est communiste, donc ça veut dire que son on va dire son idéologie, sa lecture historique, elle est matérialiste. Et du coup, lui, il commence à lutter dans un contexte dans lequel les questions de classe se posent de manière prégnante.
Absolument. C'est-à-dire que on est dans une séquence historique dans laquelle ce qu'on va appeler après la mondialisation, qui est en fait les politiques néolibérales, qui est en gros la grande revanche des classes dominantes après les peurs qu'ils ont eues dans les années 50 et 60, liées aux grands mouvements sociaux, liées à la pré-libération, etc. Les classes dominantes, à partir de ce moment-là, vont tenter leur grande revanche. On le paye encore aujourd'hui avec tout ce que nous vivons, la destruction des services publics, etc. On est encore dans cette séquence-là. C'est les débuts de cette séquence. Et Georges grandit dans un Liban qui fait ses choix néolibéraux et qui, effectivement, se posant les questions politiques, il est inévitablement amené à se poser les questions de la nature du système social. Et c'est pour ça que la prise de conscience qu'il a, elle est simultanément de classe, liée à l'impérialisme, et c'est pas des questions séparées. C'est-à-dire que cette jeunesse se pose en même temps la question et des bourgeoisies qui dominent les différents pays et des puissances qui soutiennent ces bourgeoisies ou qui... sont derrière ces bourgeoisies ou qui portent ces bourgeoisies. Et donc, la question anti-impérialiste et la question de classe pour lui sont le résultat d'une prise de conscience dans le même mouvement. C'est pas l'un plus l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. Il est communiste et anti-impérialiste. D'ailleurs, quand il se présente, il veille toujours à dire les deux. Dire que anti-impérialiste, ça voudrait dire qu'il n'a pas conscience du lien avec le système social qu'est le capitalisme. Dire qu'anticapitaliste, s'il précise toujours anti-impérialiste, c'est par rapport à l'Europe, où on a parfois des prises de position anticapitalistes qui oublient la dimension internationale et qui oublient que le capitalisme, c'est aussi la domination de notre peuple. Et c'est pour ça qu'il précise toujours communiste et anti-impérialiste, pour bien souligner que le capitalisme, c'est pas qu'une réalité nationale, c'est aussi une réalité internationale.
Alors ça fait une parfaite transition vers justement cette affaire, puisque Georges Ibrahim Abdallah a été, on va dire, alors il y a plusieurs étapes et tout de ce parcours judiciaire, mais notamment inculpé pour des attentats commis en Europe. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on revient juste après pour en parler.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi percé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés. J'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort atomanti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Saïd Bouamama, Tom et Asia. Voilà, il y en a certains qui ont un nom de famille, d'autres juste un prénom, désolé. Et on va continuer de discuter justement de ce livre, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, aux éditions Premier Matin de Novembre. En parallèle aussi avec ce documentaire sur la vie de Georges Ibrahim Abdallah qui a été réalisé par le collectif Vacarme, donc Fedayine, le combat de Georges Ibrahim Abdallah. Dans une première partie d'émission, on a parlé un petit peu de définir un petit peu les termes de justement l'histoire impérialiste du ce qu'on appelle le proche Moyen-Orient, enfin en tout cas des pays arabes. Depuis le début du XXe siècle, de parler aussi de cette socialisation politique communiste anti-impérialiste de Georges Ibrahim Abdallah. Mais ce qui est particulier, lui, dans son parcours, c'est que cette lutte-là impérialiste, il va la porter au cœur des puissances impériales. Et c'est justement pour cette raison qu'on le trouve dans les années 80, en France. Est-ce que justement tu pourrais un petit peu puisque ça apparaît dans le livre, parler de cet engagement-là et de pourquoi c'est important aussi d'impliquer que le terrain de lutte en fait ce soit aussi en l'occurrence la France.
Alors on est dans un contexte dans lequel le Liban est envahi par Israël, dans lequel il y a des massacres par l'armée israélienne et par l'extrême droite libanaise de Palestiniens, mais également de Libanais. C'est ça le contexte dans lequel grandit Georges Ibrahim Abdallah et dans lequel il commence son militantisme. Et à cette période-là, quelle est la position d'un certain nombre de grandes puissances qui est le soutien complet à l'État d'Israël. Et donc, du côté des militants palestiniens, comme des militants de la gauche arabe, le débat, en tout cas dans une fraction de cette gauche arabe, le débat sur comment arrêter ce rapport de force complètement inégal qui fait que ça tue quotidiennement des Palestiniens ou des Libanais ou des Syriens, etc. La question qui est posée par eux, c'est la question de la stratégie. Et à ce moment-là, l'idée que, comme les grandes puissances soutiennent à bout de bras, dans une époque où, quel que soit le massacre que fait Israël, il y a soutien du côté des États-Unis et du côté de la France. Et il y a cette idée qu'il faut aller mener le combat contre ceux qui soutiennent Israël. D'où cette idée de mener le combat ici. Ça n'est pas la première fois dans l'histoire des peuples qu'on a cette question-là. Je vous rappelle qu'on au moment de la guerre d'Algérie, quand le Front de Libération Nationale en Algérie se retrouve confronté à un envoi massif de l'armée française, dans lequel on a une hécatombe chez les résistants algériens, c'est-à-dire que l'armée française est en train de gagner la guerre uniquement sur le plan militaire, c'est une hécatombe vis-à-vis des résistants. Le Front de Libération Nationale décide en 1948 de porter le combat ici pour empêcher, pour fixer une partie de l'armée ici, empêcher qu'on continue à envoyer des soldats là-bas et amener l'État français à être contraint de maintenir une partie de ses troupes ici sur le territoire hexagonal. Le Vietnamien Giap dira, pour la première fois, on a une lutte de libération nationale qui se mène sur le terrain, dans le pays du colonisateur. Georges et ses camarades, à l'époque, ont la même réflexion. Ils pensent que le soutien à Israël ne pourra bouger que le jour où on aura ici la peur que la guerre arrive ici également. À aucun moment, ces stratégies ne renvoient à l'idée de tuer de manière aveugle. Autrement dit, c'est des choix de cibles qui sont faits. Quel choix de cible ? C'est des responsables militaires, des responsables des services secrets qui sont choisis comme étant des éléments symboles de l'oppression que vit le peuple palestinien. Autrement dit, ces militants n'ont, dans leur stratégie, à aucun moment pensé à des attentats aveugles. Je dis ça parce qu'après, on leur reprochera, on leur imputera des attentats aveugles qui touchent les habitants de Paris ou les habitants d'autres villes de France. C'était pas ça la stratégie. C'était de cibler des personnes qui étaient des symboles de cette oppression. Et donc, c'était des exécutions individuelles. Et le terme exécution pour eux est important. C'est pas des meurtres. Ils le vivaient comme étant un combat. Et on imputera à Georges la responsabilité de ces exécutions. Et donc, la stratégie, elle est assez simple. Elle est de dire, c'est pas nous qui choisissons les formes de lutte. Et là, il rejoignait ce que Mandela disait. Mandela nous disait, c'est jamais l'opprimé qui choisit les formes de la lutte. Les opprimés aimeraient arriver à l'égalité et à l'émancipation par une pétition, par l'entente d'une demande. C'est parce que tous les autres moyens sont inefficaces. C'est parce qu'on est sourd à tous les autres moyens qu'à un moment ou à un autre, on en arrive à la lutte armée. Et là, qu'à un moment ou à un autre, on en arrive à penser l'idée qu'il faut faire peur aux classes dominantes sur leur propre pays. Et donc l'idée de détourner des avions. Donc ça a été une des actions des centres de militants palestiniens. Et d'avoir des exécutions ciblées de personnes qui étaient inévitablement responsables de ce qui se passait de par leur fonction et de par la place qu'ils avaient dans les services secrets ou l'appareil militaire.
Non, oui, Saïd l'a dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations menées par le groupe politique de Georges Abdallah, c'est pas un cas isolé dans la scène politique arabe à cette époque-là. Il y a des centaines de militants arabes qui font des opérations en Europe ou dans le monde arabe, notamment issus d'un héritage politique qui est celle du Front Populaire de Libération de la Palestine et de son secteur d'opérations extérieures, qui, dès la fin des années 60, a fait des opérations pour mettre en avant la question palestinienne. Donc, Saïd l'a dit avec les détournements d'avions, et on se souvient de la figure de Leïla Khaled, qui est la première femme à avoir détourné un avion. Il y a eu aussi des enlèvements, des échanges, etc. Donc, Georges Abdallah, il s'inscrit vraiment dans cet héritage-là. Le caractère exceptionnel, c'est son maintien en détention, parce qu'il y a beaucoup de combattants arabes qui ont été détenus quelques années et qui ont été libérés suite à des accords après. Lui, il a été victime d'une vengeance d'État.
Alors justement, ça permet de parler... Tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais vous interroger et poser la question sur les liens avec le mouvement révolutionnaire européen à la même époque et sur le soutien, soit matériel ou politique, quoi.
Alors, on est dans la période dans laquelle il y a une vraie conscience internationaliste. Alors, ça touche des petits groupes militants, mais des petits groupes militants qui considèrent qu'il n'y a pas simplement le combat national, mais qu'on se bat contre le même système. Ça va expliquer pourquoi des militants allemands, des militants japonais, des militants vont se reconnaître dans la lutte du peuple palestinien comme étant une lutte centrale par rapport au même système de domination. Et donc, il y a tous ces échanges-là, à ce moment-là, sur l'idée que l'oppression du peuple palestinien est liée à leur propre classe dominante et que se battre, enfin soutenir le peuple palestinien, c'est affaiblir leur propre puissance. Et donc on va avoir, avec Action Directe, avec la fraction Armée Rouge, avec on va avoir des liens particuliers qui ne sont pas des liens de solidarité extérieure. Si, l'analyse des militants à l'époque, c'est nous avons affaire au même système et le peuple palestinien est celui qui souffre le plus de ce système. Et donc agir, y compris militairement, contre en soutien au peuple palestinien, c'est affaiblir nos propres classes dominantes. Et c'est pour cela que à l'époque, on a voilà des militants de qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont japonais, allemands, vénézuéliens, etc., qui considèrent que s'engager dans le soutien au peuple palestinien, c'est un élément premier.
Et on saura après, par exemple, dans le cadre des FARL, qu'il y aura des opérations conjointes en Italie, en Europe, avec l'appui de groupes européens, mais aussi de groupes turcs, etc. Il y a,
c'est une FARL, époque de... tu peux...
Ouais, c'est l'organisation à laquelle était membre Georges Ibrahim Abdallah, qui veut dire les fractions armées révolutionnaires libanaises, voilà, qui revendiquent plusieurs opérations sur le territoire français et italien au début des années 80.
Et c'est du coup à ce titre... qu'il est arrêté en 1984. En fait, il est peut-être qu'on peut dire quelques mots justement sur la chronologie, puisqu'il y a plusieurs chefs d'inculpation qui vont se succéder les uns aux autres. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, même si on pourrait prendre deux heures, mais pour parler un petit peu du début en fait de cette affaire, de son arrestation, puis de ses successifs maintiens en détention?
Oui, alors il est arrêté, il faut le rappeler aux auditeurs, parce que c'est l'élément premier, avec un seul motif d'inculpation, qui est la détention d'un vrai faux passeport. C'est le motif de son arrestation. Autrement dit, il aurait pu avoir une peine de prison très courte et être libéré. Le passeport est délivré par les autorités algériennes, qui à l'époque, c'est un moyen de soutien justement à ces militants palestiniens qui délivraient des vrais passeports algériens, mais qui sont en réalité faux. Donc c'est des vrais faux passeports. C'est le seul motif à l'époque d'inculpation réelle. Et ça va très vite se transformer, où on va lui imputer donc l'exécution de deux... je dis exécution parce que c'est le terme qu'emploient ces militants à l'époque, de deux personnes, qui est un attaché militaire états-unien. Donc c'est pas... une bombe dans la rue qui tue des innocents, c'est un attaché militaire et c'est de secondo un agent du Mossad et israélien. Donc, et on va lui imputer cela. Personne n'est dupe du côté de l'État français. Hein. Personne n'est dupe du côté... on sait très bien que c'est pas lui. Mais on a besoin de responsables pour montrer que l'État français intervient, pour montrer que l'État français maîtrise la situation. Et il va servir de bouc émissaire après.
Ouais.
Voilà, il va servir d'exemple. Et après, on va, pour d'autres raisons, on va lui imputer d'autres attentats encore. Mais ça, c'est un peu plus tard. Au moment de son arrestation, on en est juste sur ces questions-là.
Alors, il y a, j'ai l'impression, deux éléments intéressants, enfin, que tu développes en tout cas dans le livre, sur justement cette affaire dans son aspect proprement judiciaire. Il y a le fait que lui, il va utiliser son procès, puis après sa détention, comme tribune politique. C'est-à-dire que ce qui va lui être reproché in fine, ça va vraiment être de ne pas avoir renié son engagement militant jusqu'à aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est aussi l'implication des États-Unis, qui s'explique aussi, parce que tu disais au début, le fait que quand on s'attaque à la question impérialiste coloniale, c'est le système global de domination qui justement est touché. Peut-être pour commencer, parler de la position qu'il adopte en tant qu'accusé, puisque dans ton livre, tu l'inscris dans une tradition révolutionnaire face à la justice. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus?
Oui, absolument. Il m'a semblé important, pour parler de Georges, non pas que les autres discours sur Georges soient erronés, mais il m'a semblé important de réinscrire, d'expliquer l'attitude qu'a Georges face à la justice. Parce que j'ai constaté qu'un certain nombre de militants ici ont du mal à saisir cette importance-là, tout simplement parce qu'on a oublié, il y a eu un problème de transmission militante entre les générations jusqu'aux années 60 et les générations d'aujourd'hui de militants. Jusqu'aux années 60 et depuis, on peut remonter à quasiment la Révolution française. Et quand je dis Révolution française, c'est pas pour la considérer comme le centre, mais cette période-là, en gros, les moments où émergent les mouvements démocratiques contre le féodalisme et contre la royauté partout dans le monde, de manière différente d'un endroit à l'autre, mais partout dans le monde, il y a une attitude face des militants, face aux dominants, qui est de considérer que on n'a pas à s'excuser devant la justice et que lorsqu'on est arrêté, le combat continue. Et donc je cite un certain nombre d'exemples qui réinscrivent comment Georges pose la question dans cette résistance face à la justice. Que l'on prenne un Babeuf, que l'on prenne un Blanqui, que l'on prenne une Rosa Luxembourg, que l'on prenne les militants du FLN pendant la guerre de libération nationale en Algérie, à chaque fois devant la justice, ils posent cette question-là, le combat continue face à cette justice, et comment, ils se posent comment on se comporte lorsqu'on est attaqué par ceux qu'on combat. Voilà. Et Georges s'inscrit là-dedans, et effectivement, il va surprendre beaucoup de gens qui ont une approche de la justice qui serait séparée du reste de la société. Dès le début, il va considérer que son combat continue face au juge, et donc il va tenir à rappeler les raisons de son combat. C'est ce qui va expliquer que Georges, dont on sait, on a les preuves aujourd'hui, qu'il n'a pas commis ces deux attentats, va toujours mettre en avant que si son organisation lui avait demandé, il aurait commis ces deux exécutions. Je crois que sa phrase de mémoire, il dit « Si j'avais eu l'honneur qu'on me demande de faire ces tâches-là, je l'aurais fait. » Donc, il est en train de dire « Je ne l'ai pas fait », mais sans que le fait de dire « Je ne l'ai pas fait » signifie un désaveu de cette forme de lutte. Et c'est ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche. Tout au long, après des années qui vont suivre, à chaque fois, on va lui poser la question, non pas « Est-ce que c'est toi ?» mais on va lui poser la question « Est-ce que tu renies cette forme de lutte ?» Et Georges est en prison parce qu'il ne renie pas une forme de lutte, donc il n'est pas en prison pour des faits qu'il a accomplis. Il est en prison pour des idées qu'il a. C'est l'inverse de tous les principes du droit, qui est qu'on poursuit des gens sur des actes qu'ils ont commis, et non pas sur comment ils pensent. Et là, on a quelqu'un qui reste en prison, non pas pour des faits, plus... Il n'y a plus personne de manière sérieuse, ni, d'ailleurs, si vous regardez, ça fait des années et des années qu'il n'y a plus une ligne de, juridique qui est écrite pour dire « Georges est coupable ». On a des choses pour dire « si on le libère, ça sera dangereux, si on le libère, il va recommencer », mais il n'y a plus personne qui met en avant « c'est lui qui l'a fait ». Il y a juste « il pense mal ». Voilà, il ne pense pas bien, il ne renie pas. Et il est en prison parce qu'il ne renie pas ce que j'ai appelé le droit à la légitime défense. Autrement dit, est-ce que les opprimés, dans certaines circonstances, ont le droit de se défendre, y compris par les armes? Et c'est le fait qu'ils continuent à dire oui à cette question qui fait qu'il reste en prison.
Et justement, il faut bien souligner le rôle aussi des États-Unis dans la prolongation de cette détention. Et alors, notamment, entre autres, d'Hillary Clinton, dans justement bah, ce que tu décris, en fait, ce processus ce processus-là.
Oui, on a à plusieurs reprises des interventions officielles, c'est-à-dire des membres de l'appareil d'État états-unien ou israélien qui interviennent dans la presse, qui interviennent publiquement pour dire « ce serait un scandale s'il était libéré », alors que les juges sont en train de faire leur travail. Et donc qui interviennent dans l'état du débat. On a secondo, cerise sur le gâteau, un État partie prenante, puisque les exécutions du côté des FARL sont pensées comme une réponse à Israël, aux États-Unis et à la France, qui sont partis civils. Et donc on a un État qui est juge et parti, qui intervient dans le débat public et qui fait pression sur les juges. Et y compris on a des quasi-menaces, en gros, qui est de dire, si vous libérez Georges, c'est un acte qui sera vécu comme trahison, etc. Donc on a une intervention d'un État étranger sur la justice française, et qui est parfois très explicite, et les télégrammes d'Hillary Clinton sont très clairs, en gros, qui est, on vous demande de ne pas le libérer, voilà, on vous donne un ordre qui est, ne le libérez pas.
Et je voulais aussi souligner que Georges Ibrahim Abdallah, pendant son procès, il s'inscrit aussi dans l'attitude de ne pas reconnaître la légitimité de cette justice et de ces tribunaux. Au même titre que les prisonniers palestiniens, quand ils passent devant les tribunaux militaires israéliens, ne reconnaissent pas la légitimité de cette institution coloniale pour les juger. Lui, Georges Ibrahim Abdallah, il met en accusation aussi la France et sa justice en disant « De quel droit vous permettez de me juger alors que moi je suis un combattant arabe qui défend mon peuple et vous, vous opprimez mon peuple et vous le massacrez. » Donc, dès le départ, lui, il s'inscrit en rupture avec le processus juridique, la légitimité des institutions, et il s'inscrit en tant que combattant arabe révolutionnaire par rapport à ça.
Oui, et du coup, c'est important de distinguer l'égalité d'un côté et légitimité de l'autre, puisque justement, face à ce tribunal, la légitimité de la loi, en l'occurrence française, n'est pas reconnue. Et justement, même cette contestation de la légalité est ce qui va venir renforcer la légitimité de cette lutte et de ce combat.
Absolument. Et là, Georges ne fait que redire ce que beaucoup de combattants antérieurs avaient dit, qui est, j'ai l'habitude moi de le résumer en rappelant que l'esclavage a été légal, et pourtant il y a eu des militants anti-esclavagistes qui considéraient que, quelle que soit la légalité, une oppression est à combattre. Georges s'inscrit dans cette dimension-là, l'esclavage, la colonisation. Mais encore aujourd'hui, hein, n'importe quel militant peut constater qu'il y a des lois qui viennent l'opprimer. C'est légal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le contester. Et qu'il y a une légitimité contre l'oppression qui n'a rien à voir avec la légalité. La légalité, c'est une question de rapport de force. Ce qui est légal aujourd'hui ne l'était pas hier, et inversement, ce qui est illégal aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Ça dépend du rapport de force. Et donc, heureusement qu'on ne s'est pas arrêté à la légalité, parce que sinon on serait encore avec des enfants qui travaillent à 12 ans. Il y a des gens qui ont dit non, c'est légal, mais on n'est pas d'accord. Et Georges s'inscrit là-dedans et qui est de dire, mais c'est pas parce que c'est légal en France que de condamner un militant qui exécute quelqu'un qui vient tuer son peuple, c'est pas parce que c'est légal de l'emprisonner que c'est légitime. Moi, ces deux personnes-là, même si c'est pas moi qui les ai tuées, j'estime légitime que mon peuple les exécute parce que eux tuent des centaines, des milliers de Libanais, de Palestiniens, etc.
Et c'est pas pour rien que l'avocat... alors, il y aura... Il y a des histoires d'avocats aussi, parce que le premier avocat de Georges Ibrahim Abdallah, il a écrit un livre lui-même, hein, s'est trouvé être en fait un agent qui informait en fait les services de renseignement français. Donc je renvoie un petit peu au livre pour cette histoire, mais peut-être plus intéressant, il a été défendu par Jacques Vergès, qui du coup lui aussi, qui était aussi un militant anticolonialiste et qui développait une forme de stratégie judiciaire visant à utiliser cette position et utiliser les procès et cette exposition aux tribunaux pour contester la légitimité de ce droit considéré comme injuste. Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'a un peu surpris dans le livre, c'est que tu évoques pas trop le rôle de Vergès, justement, comme si Georges Ibrahim Abdallah avait vraiment fait ce chemin seul. Et voilà, j'aimerais peut-être que tu développes là-dessus, puisque ça n'apparaît pas trop dans le livre.
Parce qu'en réalité, le chemin est d'abord le chemin de Georges. Il se trouve que dans ce chemin-là, Vergès avait déjà une histoire dans laquelle il avait utilisé ce qu'il appelle la stratégie de la rupture avec les militants du Front de Libération Nationale. Mais c'est Georges qui a toujours pris les décisions. C'est lui qui a fait le choix de la stratégie de la rupture. Et c'est comme ça qu'il est parti chercher Vergès. Et c'est pas Vergès qui est venu lui conseiller cette stratégie. Donc c'est pour cela que je le souligne, mais je le développe pas, parce que c'est d'abord un choix de Georges. Je le dis parce que sur ces stratégies de défense, ce qui existe aujourd'hui comme littérature ici en Europe, c'est une littérature où on a l'impression que c'est un grand homme et un grand avocat, moi j'ai plein de respect pour Vergès, qui a inventé cette stratégie de rupture et qui l'aurait mis en œuvre. Non, c'est les militants qui ont rencontré un avocat qui a accepté d'accompagner ces militants dans l'élaboration de cette stratégie. Cette stratégie-là est une stratégie qui est en lien avec ce que je disais auparavant, qui est le combat continu devant les juges. par une autre manière, un prisonnier continue ce combat-là. Et Georges, et c'est comme ça que Vergès a été croisé, et Vergès est venu rejouer là ce qu'il a fait dans plein de combats anticolonialistes, c'est-à-dire se servir du tribunal comme tribune pour reparler des causes qui font qu'on en est là. Autrement dit, pour parler du colonialisme, c'est le colonialisme qui fait que Georges existe comme accusé, c'est le colonialisme qui explique toute l'histoire de Georges, et par conséquent, de revenir au véritable responsable. C'est la stratégie de défense qui est de ne pas s'arrêter aux faits imputés, mais de remonter aux causes. Les faits étant des conséquences d'une oppression, et ça c'est une stratégie de tous les dominants, que de ne pas jamais parler des causes, mais que de parler que des conséquences. Et là, la stratégie de rupture de Georges et de son avocat était de revenir à cela.
On a déjà bien avancé dans cette émission, je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir après pour voilà, une dernière partie.
Nos combats d'avant-garde ont des racines anciennes. Notre ardeur camarade, le passé nous l'enseigne. Sabra et Shatila, les cris qu'on écoute. Deux jours de carnage dans les camps de Beyrouth. Les phalanges à la botte de Charonne. 3500 cadavres dans l'odeur de charogne. Les chars Merkava, le déluge de feu. Devant ce ravage, comment fermer les yeux? Pendant l'occupation, ne plus résister. Déposer les armes, c'est ne plus exister. Alors Georges, c'est le Liban debout, le peuple qui refuse de mourir à genoux. Les bastions ne connaissent plus le calme, bombes à fragmentation, phosphore et napalm. Les pogroms, leurs milices au programme, les centres de torture, dans Tsar et Kia, bidonville de Beyrouth, la ceinture de misère, les révolutionnaires, ce code sale redoute. Pour accomplir leur but, nos terres s'accaparent, au jeu de leur empire, c'est bien nous les barbares. La fraction attaque, le Mossad en Europe, les laquais du Yankee, les patrons de vos ordres. Des actions ciblées contre l'impérialisme, prisonniers politiques, internationalistes. Vengeance d'État, un climat délétère. Manipulation, guet-apens judiciaire. Simple bouc émissaire, pourtant libérable. Éternel opposant au discours libéral. Avocat fantoche dans un procès vaseux. Mazurier se rapproche de la DGSE. Calomnie des journaux, fabriquer des preuves. Pour le sale boulot, y'a Seffer et Villeneuve. La presse intoxiquée par les services secrets. Car la DST veut la perpétuité. Cet acharnement depuis plus de 30 ans. Et pour Georges Abdallah, s'alourdit la sentence. Hors de question de mourir entre leurs murs.
Est emprisonné en France depuis 30 ans. Georges Ibrahim Abdallah. En 87, il a été condamné à perpétuité. Georges Ibrahim Abdallah pourrait bénéficier d'une liberté conditionnelle, mais après 8 demandes refusées, il est toujours derrière les barreaux.
De retour sur Canal Sud, dans le magazine en compagnie de Saïd Bouamama, Assia El Kasmi et Tom, pour justement autour de ce livre, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah et du film Fedayin, le combat de Georges Ebrahim Abdallah. On a un petit peu voilà, contextualisé, parlé du contexte politique et de cette lutte menée par Georges. Maintenant, peut-être, on peut profiter des derniers moments pour parler de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et plus généralement de la forme en fait que peuvent prendre ces luttes anti-impérialistes, internationalistes à notre époque actuelle.
Oui, alors absolument, parce que ça explique aussi pourquoi Georges est maintenu en prison, parce qu'on se retrouve aujourd'hui, donc Georges entame sa 38e année de détention. Et on se retrouve dans une situation où, après de très nombreuses demandes de libération conditionnelle, les incohérences du dossier ont quand même amené les juges à décider qu'il pouvait être libéré, mais ont assorti cette décision d'une condition, donc ils renvoyaient la balle aux politiques, d'une condition qui était que Georges soit expulsé du territoire français. Autrement dit, de manière judiciaire, l'affaire est close. Ça renvoie maintenant à l'État français, au chef de l'État français, au ministre de l'Intérieur français, au Premier ministre, qui donc peut appliquer la décision de justice tout simplement en signant un arrêté d'expulsion de Georges Ebrahim Abdallah. C'est ça la situation à l'heure d'aujourd'hui. Et depuis, il y a eu plusieurs ministres de l'Intérieur, il y a eu plusieurs chefs d'État qui ont refusé de signer cet arrêté d'expulsion. Donc, pour moi, l'affaire n'est plus judiciaire, elle est politique. Il y a un choix de l'État français de ne pas signer un arrêté d'expulsion. Georges est le seul étranger en France à désirer être expulsé. C'est ça la situation. Généralement, on se bat pour qu'il puisse rester. Ici, on a un étranger qui demande à ce qu'on l'expulse. Autrement dit, il y a un choix politique. Et on est forcé de se poser la question, à quoi mène ce choix politique? Qu'est-ce qu'il peut signifier? Il peut ne signifier qu'une chose, c'est la décision de laisser mourir Georges en prison. Il a 70 ans aujourd'hui. Et le refus de signer cet arrêté d'expulsion, c'est un choix de le laisser mourir en prison. Et par rapport à ça, on est contraint de se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui peut exister comme raison? Et on peut se poser toutes les questions qu'on veut. On en arrive inévitablement à la signification qu'a pris Georges, en termes de symbole, sur la question des luttes des peuples, sur la question de la résistance, sur la question du rapport à l'État, etc. Georges est devenu un symbole de résistance. Sa libération serait un signe aussi que la résistance, eh bien, même en prison, ça tient, c'est possible, à un moment où on a une offensive idéologique mondiale, et en France en particulier, qui est de dire, mais soyez réalistes, abandonnez vos idées, tout n'est pas possible, faut pas être radical, etc. Voilà quelqu'un qui est emprisonné, qui dit non, moi je renonce à rien de mes idées, et sa libération est le symbole de cette résistance. Et donc, pour les classes dominantes, il est hors de question de le libérer. Ils le libéreront que si il y a un mouvement à l'extérieur qui les contraint à le libérer, s'ils sentent qu'il est trop connu pour qu'on ne le libère pas. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Au moment où en Palestine l'oppression continue et donc les luttes continuent sous des nouvelles formes, etc., la libération de Georges serait un message en direction de ces luttes, et donc on ne peut pas le libérer de leur point de vue. Du côté des peuples, c'est l'inverse. La libération de Georges serait un signe que résister, eh bien, c'est pas ringard comme on essaie de nous faire croire. Résister, c'est pas inefficace comme on essaie de nous faire croire. Résister, même en prison, c'est participer à la lutte. Et ça correspond exactement à Georges. Lire les déclarations de Georges, on voit qu'il est branché sur les vibrations du monde. Georges est quelqu'un qui, en prison, vous pose des questions sur « Mais ces gilets jaunes, là, c'est quoi exactement qu'est-ce que ça signifie et les syndicats, comment ils réagissent par rapport aux gilets jaunes ?» On pourrait s'attendre à ce que quelqu'un qui est emprisonné comme ça nous parle que de son dossier, de sa libération. Non, il nous parle et il nous dit « Mais et au niveau de la jeunesse, dans les quartiers, ça bouge comment ?» Je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires. Quand on a demandé à Georges d'être notre président d'honneur, il nous a posé aucune question sur son dossier. Il nous a posé des questions sur, alors, et dans les quartiers populaires, c'est quoi votre stratégie et comment vous articulez classe et discrimination raciste? Et est-ce que vous êtes libertaire, marxiste? Il nous posait des questions sur les quartiers populaires, alors que lui était emprisonné. Et donc, lui, il est en lien avec les vibrations du monde, et donc sa libération, en réalité, est en lien avec ses vibrations. Quoi.
Et pour compléter, là, ce qui est, on est en train de voir que la campagne internationale pour sa libération, elle se développe et elle est en train de passer un seuil à la fois quantitatif et qualitatif. En France, en Europe, au Liban, où la jeunesse libanaise, par exemple, dans les révoltes de ces derniers mois, l'a repris comme une figure politique importante, mais aussi à Gaza, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Cisjordanie. Voilà, donc là, l'enjeu, justement... parce que sa libération, elle est à notre portée, à tous et à toutes, et il faut prendre parti, il faut rejoindre les comités de soutien, il faut s'engager pour sa libération, il faut diffuser le livre de Saïd, il faut diffuser le film Fedaïn, et il faut multiplier les initiatives. Il y a des choses qui sont significatives. Par exemple, il y a une tribune qui est sortie dans Mediapart juste avant la manifestation à Lannemezan, signée par 400 personnalités politiques au niveau français et international, comme Mumia Boudjamal, Angela Davis, Ahmed Sadat, Noam Chomsky, etc. C'est la première fois en 37 ans qu'une telle tribune paraît dans la presse française. Et donc, ça montre en fait que les lignes sont en train de bouger, que leur rapport de force est en train d'évoluer. Face à cette tribune, par exemple, Manuel Valls a affirmé sur Twitter que c'était lui qui était responsable du maintien en détention de Georges Abdallah et que c'était une décision politique parce que Georges Abdallah était, entre guillemets, un terroriste. Donc voilà, les choses sont claires. Aujourd'hui, son maintien en détention, c'est un maintien politique voulu par le gouvernement français avec ses alliés américains et israéliens. Et nous, face à ça, on a une responsabilité politique de développer la campagne et notamment de développer une campagne de terrain au quotidien, dans les quartiers, dans les différentes villes où on est présent, etc. Et on voit que ça marche. La première manifestation à Lannemezan, c'était il y a 11 ans, on était 100. Aujourd'hui, on est plus de 1000 et il y a des initiatives partout dans le monde. Donc en fait, c'est ça qui est déterminant et c'est ça qui sera déterminant pour sa libération. Donc nous, en tant que collectif Palestine Vaincra et membre du réseau Samidoun, on invite les gens à s'engager dans sa campagne au quotidien, sur le terrain, et on est persuadé que ça sera un facteur déterminant pour arracher sa libération.
Je peux donner juste un exemple très concret qui est un révélateur de l'importance du soutien à Georges et de pourquoi il faut s'engager aujourd'hui. Vendredi dernier, on accueillait, sur leur demande, la délégation des apatistes qui fait un tour du monde. Et donc, ils avaient demandé à rencontrer le Front Uni parce qu'ils disaient, en gros, qu'on posait des questions que beaucoup de groupes militants ne posaient pas, qui sont les questions... articulant classe et impérialisme, etc. Et donc, ils voulaient savoir comment concrètement ça se traduisait. Et donc, on leur présentait nos modes d'action. Donc, on disait, nous, pourquoi les sans-papiers, c'est important? Pourquoi la lutte contre la guerre, c'est important? Donc, on leur expliquait nos actions, nos mobilisations, nos faiblesses, nos difficultés. Et parmi eux, donc, tous nos collectifs, ils ont rencontré tous les collectifs du Front Uni en France. Eh bien, à chaque fois, il y avait un point sur Georges. Voilà. Pourquoi Georges faisait partie de nos axes de mobilisation? Et en discutant avec les différents camarades des différentes villes, parce que ce n'est pas les mêmes, c'est des délégations différentes de zapatistes, tous ont arrêté la discussion pour poser des questions sur la question de Georges. Donc il y a eu un arrêt à chaque fois où ils disaient « Attendez, on veut comprendre ». Et en nous disant « Mais là, Georges, là, ça nous rappelle, nous, des gens emprisonnés ou tués chez nous ?» Et donc, tous voyaient l'importance, alors qu'ils ne connaissaient pas Georges auparavant, tous voyaient l'importance, et nous demandaient des documents. C'est-à-dire que pour eux, en tant que zapatistes, c'était évident que la question de la libération de Georges était en haut de l'agenda par rapport à tout ce qu'on leur disait, qui était du combat de long terme, les régularisations de son papier, c'est du long terme, etc. Et pour eux, il y avait un immédiat qui était Georges, parce que là, ça leur rappelait ce qu'était l'oppression, en réalité. Donc, on voit bien en quoi aujourd'hui, quels que soient nos engagements, nous sommes tous pris par plein de combats. Mais il y a une question qui doit être en haut de l'agenda parce que, en réalité, elle symbolise toutes les autres luttes. Georges se bat contre le système sexiste, le système raciste, le système capitaliste aussi. Et donc, il est en haut de l'agenda et son maintien en prison. Et donc, on est à cette époque-là dans laquelle on s'en empare tous ou il mourra en prison. C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui.
Je voudrais juste revenir sur les mobilisations, parce qu'il y a un mois spécifique qui est octobre et qui est le mois pour la libération de Georges Abdallah. Mais évidemment, c'est toute l'année. Et du coup, je voulais savoir comment on peut aider, comment les gens qui nous écoutent peuvent rejoindre, aider, porter la lutte pour la libération de Georges Abdallah.
Eh bien, il y a des comités de soutien qui existent dans beaucoup de villes, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Paris, à Toulouse, etc. Donc évidemment les rejoindre, mais aussi faire vivre le combat pour la libération de Georges dans chaque organisation dans laquelle sont les gens, dans des syndicats, dans des associations, dans des organisations politiques, en interpellant aussi leurs élus locaux, leurs députés, etc. Il y a aussi une carte pétition qu'on fait signer, qui est adressée à Emmanuel Macron pour exiger sa libération, qui est disponible et qu'il faut commander sur liberonsgeorges.samizdat.net. On peut aussi le soutenir en lui écrivant. Il y a son adresse sur ce même site. Voilà, donc nous, on invite les gens à multiplier les initiatives de diverses manières et l'ensemble de ces initiatives convergeront vers sa libération.
Et qu'il est aussi possible d'organiser une projection du film dans son syndicat, dans son comité de quartier, une discussion autour du livre. En fait, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et réalisables.
Pour projeter le film, on le trouve où le film? Il faut vous contacter? Ça se passe comment?
Il faut contacter le collectif Vacarme Film, donc Vacarme Film, au pluriel les deux mots, @gmail.com. Et sinon, il y a un site internet qui est fedayin-lefilm.com.
D'accord. Eh ben, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on...
Oui, au-delà des formes très précises qui ont été données, il y a aussi après nos attitudes individuelles. Et je pense que nous devons entrer dans une forme de guérilla pacifique sur la question de Georges. Je dis bien guérilla pacifique. Autrement dit, il va y avoir des présidentielles, il va y avoir du débat politique. On est dans des syndicats, dans des associations féministes, dans des associations de quartier, etc. Il faut absolument que la question de Georges soit visibilisée, qu'il n'y ait plus un débat possible sans que quelqu'un pose et votre position sur Georges et sur la libération de Georges, qu'il n'y ait plus de gens qui se réclament de la gauche, des quartiers, des classes sociales opprimées, sans qu'on leur pose la question « et pourquoi vous vous taisez sur Georges ?». Autrement dit, il faut banaliser cette question-là de telle sorte que ça ne soit plus possible de parler d'autre chose sans que la question de Georges arrive et sans que la personne puisse... Se protéger ou se cacher derrière un silence ou derrière je ne sais pas ou derrière je suis pas au courant ou derrière je vais étudier le dossier. Non, c'est fini. Plus personne ne doit pouvoir dire je connais pas le dossier. Il doit pouvoir dire je suis pour sa libération ou je suis contre. Il dit ce qu'il veut, mais l'obliger à dire ça. Et je pense que si nous réussissons dans les mois et l'année à venir à ce qu'il n'y ait plus un moment de débat sans que quelqu'un pose cette mauvaise question, hey, c'est quoi ta position là? Que ce soit pour les élections municipales, président, que partout, il y ait quelqu'un qui pose cette question-là, si on réussit ça, je pense qu'il est libérant. C'est-à-dire que ça sera devenu une question incontournable. C'est à nous tous. Il faut qu'on harcèle tous ceux qui font semblant de ne pas savoir ou ceux qui prétendent que on peut parler d'autre chose sans parler de Georges aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en parler à la radio. Ben, bon après-midi à vous.
Merci. Merci.